On pourrait les comparer à Bonnie and Clyde. Un couple d'escrocs a été condamné cette semaine par le tribunal de Versailles. Escrocs d'un nouveau genre, au style flamboyant, au moins en apparence. Ils se faisaient passer pour de riches investisseurs étrangers à la recherche de maisons, de biens, d'exception. Opération séduction auprès des propriétaires qui les laissaient s'installer avant même d'avoir perçu les fonds. Seul problème, l'argent n'arrivait jamais. Et après des mois de squat, les escrocs disparaissaient, laissant derrière eux dettes et dégradations. Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires Suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier.
Bonjour.
Vous êtes journaliste police-justice à bfmtv.com. Avec vous, on va évidemment revenir sur le procès de ce couple d'arnaqueurs qui a eu lieu il y a quelques jours et auquel vous avez assisté. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes propriétaire d'une péniche et vous avez été contacté par ce couple, Michael et Céline, et ils vous ont arnaqué. Vous allez nous raconter cette histoire pour laquelle vous avez d'ailleurs déposé plainte. Mais d'abord, Justine, revenons sur ce couple. Les enquêteurs que vous avez sollicités ont décrit Michael et Céline comme des Bonnie and Clyde de l'arnaque, des pros de l'escroquerie. Et pourtant, vous avez été frappé, vous, lors du procès, par une certaine normalité qui ressort de ce couple.
Oui, c'est ce qui est peut-être le plus marquant dans ce couple. Quand je suis allée donc au tribunal de Versailles qui jugeait Michael et Céline, j'étais assise par hasard à côté d'une gendarme qui a enquêté sur eux. Et elle me dit, vous allez voir, ils sont vraiment très forts. On vous dit, ils se font passer pour des riches entrepreneurs, c'est des Bonnie and Clyde. Un peu naïvement, on se dit que ça doit être des gens assez charismatiques, assez flamboyants. Et en réalité, quand ils sont rentrés dans le box des prévenus, j'ai dû demander à ma voisine si c'était bien eux. Parce que lui, il est certes grand, il est assez imposant, il est assez physiquement, il a un peu une physique de rugbyman. Il est chauve, il a une barbe poivre et sel qui arrive jusqu'au niveau de la poitrine. Et en fait, il n'a rien de sympathique. Il est assez hautain, à la fois avec le tribunal qui le juge, il est aussi assez hautain avec certaines victimes qui étaient venues témoigner. Et elle, donc Céline, eh bien, elle est de taille moyenne, elle est de carrure moyenne. Elle se cache derrière ses cheveux, des cheveux aux reflets rouges quand elle parle. Elle pleure beaucoup, elle sanglote, mais elle pleure surtout sur elle-même et pas vraiment sur les victimes. Et cette assistante sociale, elle est responsable d'un service social au sein d'une caisse primaire d'assurance maladie. Elle se dédouane totalement et elle fait assumer tous les torts à son mari qu'elle appelle maintenant monsieur. Alors lui, il reconnaît effectivement, mais on n'en sait pas beaucoup plus. Tout au long du procès, il va dire « je reconnais, j'assume entièrement les faits ». Un coup, il va expliquer qu'il s'est présenté sous son second prénom et sous le nom de son épouse parce qu'il a déjà été condamné et qu'en France, il se plaint qu'on n'a pas le droit à l'oubli, que si on va rechercher son nom sur Google, on va voir qu'il a été condamné et que personne ne va lui faire confiance. Et on comprend aussi pourquoi. Et aussi, on a un sentiment un petit peu que cet homme qui se présente comme ingénieur du son, il en veut aux plus aisés, aux plus fortunés. Il parle d'ailleurs pendant le procès de l'évasion fiscale que l'une de ses victimes aurait mis en place. Mais finalement, peu importe, fait remarquer son avocat, si elle a fait une évasion fiscale, c'est son problème et ça ne mérite pas qu'il ait squatté pendant des mois sa maison.
Ouais, ça traduit effectivement les pratiques de ce couple qui s'est attaqué à des personnes aisées. Alors Michael a déjà été condamné, vous le disiez, à 10 reprises. Il avait l'interdiction de détenir une entreprise. Céline, elle a un salaire plutôt modeste. Comment se sont-ils présenté à ses propriétaires pour que ça marche?
Alors en mars 2023, Michael, il contacte la propriétaire du château de Sauvage à Émancé, c'est dans les Yvelines. C'est un château historique dans lequel a vécu l'une des filles de Louis XIV. Et c'est dans la région, c'est un patrimoine historique auquel on tient. Il y avait une réserve avec des animaux, des kangourous, des flamants roses. Donc c'est une belle propriété. Et là, il va se présenter sous le prénom de Marcel. Michael, c'est son second prénom, et il va donner le nom de son épouse. Il dit qu'il est chef d'entreprise en Grande-Bretagne, qu'il vient de vendre un immeuble, donc qu'il a de l'argent, et qu'il recherche une propriété pour installer son entreprise. Et il dit aussi qu'il a des projets pour ce château. Il va installer un hôtel, une boulangerie, un restaurant. Voilà. Donc, Michael, à ce moment-là, ne négocie pas le prix. Pour la vendeuse, c'est une aubaine. Ça fait quelques mois qu'elle cherche à vendre. On parle quand même d'un château à 9 millions d'euros, 500 000 euros pour les meubles qui restent, les meubles anciens qui restent dans la propriété, et 600 000 euros pour les animaux de la réserve. Mais voilà, les fonds ne peuvent pas arriver immédiatement parce que Michael dit, bah, vous comprenez, avec le Brexit, le temps que je rapatrie les fonds, ça va prendre quelques jours, voire quelques semaines. Mais il lui demande quand même de pouvoir s'installer avec sa famille dans le château. La dame en question lui fait confiance. Elle se dit que c'est pour quelques jours. Donc, on parle de 9 millions d'euros. Donc, elle les laisse s'installer. Mais les semaines passent et les fonds, eux, n'arrivent pas.
Et alors, ce que va découvrir cette propriétaire, Justine, est à peine croyable.
Oui, à l'audience, elle dit « on est tous tombés dedans ». C'était un beau parleur. Alors, cette dame, donc, elle est d'origine allemande, elle est repartie en Allemagne quand elle pense avoir vendu son château. Et comme elle ne voit pas l'argent arriver sur son compte en banque, elle revient en France, elle s'installe dans un hôtel juste à côté du château et elle attend de pouvoir re-rentrer dans cette propriété. Et là, elle va découvrir ce qu'elle qualifie de misère. Des travaux ont été engagés. Le couple a fait décoller des parquets anciens. Ils ont fait retirer les tentures d'époque. C'est un patrimoine un peu inestimable. Et ils ont décoloré les boiseries. Pareil, des boiseries en cerisier, précise la propriétaire. Et ils les ont repeints un peu vulgairement en blanc. Et ils ont été même jusqu'à brader le mobilier Louis XV qui appartenait encore à cette dame. Un mobilier qui valait quand même 500 000 euros et ils l'ont bradé auprès d'antiquaires pour vraiment des sommes assez modestes. Et ces travaux, ils ont été engagés. Il y a des artisans qui ont travaillé dans le château et eux n'ont jamais été payés. Et il y a eu un témoignage, un jeune homme de 22 ans qui a assez touché tout le monde lors du procès. C'est un jeune homme donc, qui a 22 ans, qui venait d'ouvrir son entreprise et qui n'a pas payé. Aujourd'hui, il est menacé de faillite.
Alors, Michael et Céline ont donc été jugés pour le squat de ce château, aussi pour les dégradations évidemment à l'intérieur, pour escroquerie envers les artisans. Lui a été condamné à une peine lourde de 4 ans de prison, dont 2 ans avec sursis probatoire. Elle a 18 mois de prison, dont 1 an avec sursis. Il faut dire qu'il y a bien d'autres victimes. L'histoire n'est pas finie.
L'histoire, elle n'est pas finie et même elle commence avant le château. On est en novembre 2022 et là, Michael, il contacte le propriétaire d'une maison à Montfort-l'Amaury. C'est aussi dans les Yvelines. C'est un homme qui vend une belle bâtisse ancienne sur 5 étages. Il s'agit des anciens cachots de la ville. Donc là encore, une demeure avec beaucoup de cachets. Là encore, il se présente sous le prénom de Marcel. Il dit encore qu'il est chef d'entreprise en Grande-Bretagne. Et là encore, il ne négocie pas le prix. Là, on parle d'un million d'euros. Le vendeur, il va dire qu'il l'a trouvé très sympathique. Les deux hommes, ils vont d'ailleurs se tutoyer assez rapidement. L'acheteur fait une promesse d'achat. Là encore, il dit que les fonds, il va falloir un petit peu de temps pour qu'ils arrivent parce qu'ils sont en Grande-Bretagne. Et il va quand même demander à s'installer dans la maison. Et le vendeur n'y voit pas d'inconvénient. Il leur dit « allez-y ». Sauf que le calvaire pour ce vendeur va durer 7 mois. Le couple va s'installer, ils vont mettre leurs meubles, ils vont mettre les compteurs d'électricité à leur nom. Et le propriétaire n'a pas l'argent et ne peut plus rentrer chez lui. Pour mettre fin à tout ça, à cette période d'angoisse, il va pénétrer dans la maison avec des amis quand le couple est absent. Ils vont changer les serrures et ils vont s'installer. Ils vont on va faire un vrai siège, une vraie forteresse de cette maison pour pas que le couple ne rentre. Il va devoir payer un déménageur pour déménager les meubles. Il va payer le garde-meubles pour les meubles que le couple n'a jamais récupérés. Et il va devoir payer les factures d'électricité, d'énergie pendant les 7 mois où le couple a occupé cette maison. On parle d'un préjudice financier, mais surtout pour ses propriétaires, c'est une sorte de préjudice moral. Il y a une forme de honte à s'être fait avoir. Et en fait, ils vont avoir du mal à témoigner, mais en même temps, vu le nombre, ils se disent que c'est le moment d'alerter. Parce que Marcel et Céline, ils n'en sont pas du tout à leur coup d'essai. En 2006, c'est le Racing Club de Lens qui s'est fait avoir. Michael, à ce moment-là, s'est présenté comme l'agent de Robbie Williams, le chanteur Robbie Williams, et il leur dit qu'il va pouvoir venir chanter dans le stade pour 140 000 euros. Robbie Williams n'est jamais venu à Lens. 2 ans plus tard, il refait la même chose avec le club de Valenciennes. Cette fois-ci, il promet de faire venir Stromae. Et Stromae, là non plus, n'est jamais venu à Valenciennes. Il y a même un grand cabinet d'avocats parisiens à ses côtés qui, lui, a été arnaqué à hauteur de 23 000 euros. Et quand ils ont été arrêtés fin janvier, le couple essayait là de racheter, toujours sans fond, des clubs de foot. Et donc, on comprend bien qu'en fait, ce couple, cette mécanique, c'est une fuite en avant perpétuelle. Ils arnaquent à un endroit. Quand ils se font démasquer, ils partent ailleurs et ainsi de suite.
Merci beaucoup, Justine. Cette affaire est effectivement assez fascinante par la personnalité de ce couple et leur manière d'agir. Jean-Marc, bonjour encore une fois et merci d'être avec nous parce que vous avez rencontré Michael et Céline. Racontez-nous comment ils ont pris contact avec vous.
Sur une annonce, tout simplement. Donc il est venu visiter ma péniche. Il avait l'intention de monter un studio d'enregistrement en me disant qu'il venait de Londres et qu'il voulait se rapprocher de sa femme. Parce qu'il travaillait trop à Londres et que sa femme considérait qu'elle était un peu abandonnée. Et donc il s'est rapproché de moi, il a visité le bateau, il était très intéressé, il m'a parlé de son projet.
Comment il se présente? Il est bien habillé, il est chic, il vous fait bonne impression?
Pas spécialement chic, il est plutôt style chanteur, style un peu Led Zeppelin des années 80, voilà, celui qui a roulé un peu.
L'artiste qui a roulé sa bosse.
Oui, un peu, oui. Il connaissait pas mal de choses, c'était cohérent. Après, voilà, c'était son choix, moi j'étais vendeur, il discutait pas le prix, c'était parfait.
Qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous raconte toute une histoire? Il vous donne beaucoup de détails? Ou il y a beaucoup de zones d'ombre? Ou est-ce que vous avez eu le sentiment, à posteriori, évidemment, que tout ça avait été bien préparé?
Préparé, oui. Il a tout un discours qui est prêt, mais il sait très très bien improviser. Claire, vous lui parlez de quelque chose, le lendemain, il a la réponse ou la solution. Donc ça, c'est assez surprenant. Vous lui parlez de quelqu'un, il peut vous parler de quelqu'un qu'il ne connaissait pas avant, tout d'un coup, il le connaissait, etc.
Il présente donc plutôt pas mal, il joue le personnage de cet artiste qui roule sa bosse, il s'adapte, il répond à vos questions comme vous
exactement.
Nous dites. Qu'est-ce qui va se passer?
Ce qui avait été prévu, c'est que pour vendre un bateau, il faut qu'un expert puisse le regarder. Bon, ce n'est pas une obligation, mais on s'était mis d'accord. Il devait prendre en charge les travaux d'expertise, les travaux
d'inspection.
D'inspection. Et voilà, après, il me donnait son accord ou pas définitif. Et après, il faisait ce qu'il voulait. Il s'est engagé avec le chantier, ils ont sorti le bateau, l'expert est venu, il a fait une expertise et à ce moment-là, il m'a dit « bon, c'est parfait, moi ça me va, il n'y a pas de souci, j'y vais ». Et puis, il a commencé à se mettre en relation avec le chantier sérieusement et ils ont fait les travaux directement.
L'inspection, ça coûte combien?
Environ 1500, 2000 euros.
Et la péniche, vous la vendiez combien?
400 000.
Et il vous dit qu'évidemment, il prend en charge tout cela.
Oui.
Et ensuite?
Le chantier commence les travaux, donc c'est des travaux qui sont très très importants.
Qu'est-ce qu'il fait?
Son projet, c'était de faire un studio d'enregistrement qui devait accueillir une table de mixage ancienne qui a enregistré les Rolling Stones, etc. Bon, c'est une antiquité, mais il disait que c'était la meilleure, que pour entrer, il fallait faire ça, etc. En clair, il y avait un petit peu de travaux à faire, mais c'était pas assez pour lui, il fallait qu'il en rajoute. Puis bon, bien sûr, le chantier s'est dit... on va en rajouter, donc il en a rajouté, et puis tous ces projets étaient un peu fous, mais réalisables. Donc moi j'étais exclu à ce moment-là, si vous voulez. Moi, dès qu'il m'avait donné son accord, j'attendais ses virements, comme tout le monde.
C'est sûr.
Et les travaux ont duré environ 2 mois. Après, il y avait une deuxième étape qui était prévue avec un architecte. Au bout de 2 mois, si vous voulez, le chantier, en clair, m'a dit « Est-ce que vous avez été payé ?» Je dis « Non, j'attends. » Et j'étais un petit peu étonné qu'il me pose la question. Et ils me rappellent, ils me disent « Bah non, on vient d'apprendre que c'est un escroc, etc. » Bon, l'histoire, c'est un petit peu ça, quoi. Ils me faisaient à moi le coup du virement qui allait arriver, oui. Problème de banque, l'Angleterre, c'est plus Europe, c'est peut-être, il y a des contrôles qui sont plus sévères, ça vient peut-être de vous, peut-être de votre banque, vous posez plein de questions. Moi, ils m'avaient donné un grand nom de cabinet d'avocat qui était rue Saint-Honoré, qui n'est pas le même, voilà, qui était leur spécialisé. Alors, ils étaient un peu spécialisés sur les sociétés internationales, anglaises, etc. C'était cohérent et il me disait à chaque fois c'est mon avocat qui va tout rédiger, etc. Bon, sauf que moi j'étais un petit peu étonné que son avocat me contacte jamais pour en discuter. Ils avaient effectivement tous les éléments pour le faire, c'est pas très compliqué, c'est pas de l'immobilier, un bateau ça se vend en 3 minutes si on veut, c'est très simple. Et il a été jusqu'au point, à chaque fois, je le boostais en me disant « je comprends pas, ça fait 1 mois, 2 mois, c'est pas possible, il y a quelque chose qui va pas, quoi. »
Et c'est lui qui vous disait ça?
Bah, lui, il a toute une stratégie en disant bah, « je vais me renseigner auprès de ma banque, ah, bah, je vais changer de banque, je vais transférer les fonds sur une autre banque. » Et puis vous attendez, quoi. Vous vous dites « bon, ça a l'air d'être cohérent. » Après, si vous voulez, il a toute une technique en disant bah, « je repars à Londres, je vais voir avec eux. » Après, il m'a fait aussi le coup du banquier en Luxembourg. Il m'a dit « je vais voir avec mon banquier au Luxembourg, les fonds sont plus en Angleterre, mais maintenant ils sont au Luxembourg. Vous contactez un peu tout le monde. » À un moment où j'ai appelé des banques et j'avais pas de nom précis de banquier ni de banque exactement, quoi. À un moment, il m'a donné une grande banque privée, Boulevard Haussmann, et je les ai appelés. En disant, vous connaissez, bon, ils vous laissent pas, vous avez pas accès à leurs renseignements, donc ils font un blocage, vous pouvez pas leur demander qui sont vos clients, quoi. Entre ces départs, hein, où ils repartaient en Angleterre, où ils n'étaient pas joignables.
Et pendant ce temps-là, ils profitent de votre péniche, qu'est-ce qu'ils font pour. Ils gagnent de l'argent?
Non, non. Le problème, il est là. Alors, son problème, son projet, c'était un vrai studio d'enregistrement. C'est-à-dire qu'il a fait travailler un architecte. Ils ont pris les cotes pendant 2 jours. Même moi, il me demandait des nouvelles cotes. Je devais vérifier. Et son projet, ils l'ont fait sur le papier. Voilà, j'ai vu le projet.
Mais ça veut dire qu'il ne profite même pas de tout cela?
Non.
C'est juste un délire personnel.
Pour moi, c'était pas un délire, étant donné qu'il était acheteur. Mais c'était cohérent. Il me parlait des Jeux Olympiques, il me parlait de certains emplacements. J'ai été voir ces emplacements. Il y avait des choses qui étaient cohérentes. Mais lorsque vous lui disiez un nom d'un responsable en disant bah, c'est telle personne qui s'en occupe, le lendemain, ou 2 ou 3 heures après, il avait la réponse. Ouais.
Vous en êtes où aujourd'hui ?
Aujourd'hui, c'est très simple, c'est que lui a disparu. Moi, je ne le faisais que l'appeler à un moment, et je ne l'avais jamais, ou des fois j'arrivais à la voir, etc. Et puis, il a utilisé les dirigeants du chantier pour les manœuvrer, c'est-à-dire qu'il a réussi à faire faire tous les travaux, et il isole un peu chaque cas. Une fois qu'il vous a un peu eu, il passe à
quelqu'un d'autre.
Quelqu'un en dessous, etc., etc.
Aujourd'hui, vous avez hérité des dettes ?
Oui.
Combien ?
J'ai pas hérité des dettes, si vous voulez. Aujourd'hui, j'ai le chantier qui me réclame 160 000 euros de travaux environ. Tous les travaux qu'il a demandé, le chantier me dit ils ont porté plainte, mais ils savent très bien que c'est un escroc et qu'ils n'auront jamais d'argent avec lui. Donc, ils ont trouvé intelligent de se retourner contre moi.
Bien sûr. Vous allez pouvoir garder votre bateau ?
Je le souhaite. Après, c'est très compliqué parce que aujourd'hui, c'est moi qui ai les problèmes. J'ai un bateau qui me sert à rien. Et en plus, j'étais obligé de le vider, si vous voulez. Il y a plus rien. Aujourd'hui, c'est une coque en très bon état. C'est très bien. Effectivement, ça vaut de l'argent pour quelqu'un qui en a l'utilité, un restaurant, quelque chose. Et pour moi, ça me sert à rien. Donc, je suis perdant. Et ensuite, si vous voulez, je suis en procédure avec le chantier. Donc, les procédures, ça dure longtemps. Je gagnerai, mais ça va prendre des années.
Et c'est la pression morale dont on parlait tout à l'heure. Ouais. On vous souhaite bon courage. Merci beaucoup d'être venu témoigner. Merci beaucoup Jean-Marc. Merci beaucoup Justine.
Merci.
Affaire suivante, le podcast inédit, c'est à retrouver évidemment sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes de streaming. À la semaine prochaine.